L'heure de la rentrée a sonné et nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de votre programme littéraire sur Radion. Bonsoir à toutes et à tous, c'est mercredi et c'est Wagon Livre. Nous sommes en votre compagnie jusqu'à 22h pour une émission consacrée à un compte-rendu d'un salon qui s'est tenu le 7 juillet dernier, très au sud de la Nièvre, très précisément à Saint-Honoré-les-Bains. Il s'agit de Bains de Livres à Saint-O, dont l'organisation a été confiée cette année, une fois de plus, à Evelyne Philippe. De nombreux éditeurs et auteurs étaient présents. Vous en entendrez quelques-uns, notamment Maud Tabachnik, Sandra Amani, Gilles Paris, ou encore le créateur des éditions D'un noir si bleu, Pascal Arnaud, et puis l'historien Philippe Ménager. Ce beau salon a été présidé par Denis Tillinac, écrivain, journaliste, ancien éditeur, membre de l'Institut, venu, entre autres, dédicacer son dictionnaire amoureux du catholicisme et son dictionnaire amoureux de la France, disponible chez Plon. Nous lui avons demandé ce que lui inspirait la Bourgogne, qu'il affectionne tant.
Oui, la Bourgogne est le miroir d'un double tempérament français, une pente à la spiritualité, hein, c'est quand même Cluny et Cîteaux, hein, des choses qui ont donné lieu à un rayonnement spirituel, puis économique et social européen, on dirait aujourd'hui. C'est aussi le lieu d'un des vignobles les plus réputés du monde. Quand je sillonne cette Côte d'Or, un peu avant, un peu après, au nord le Chablis, au sud Côte de Chalon, Côte de Mâcon, je trouve qu'il y a entre notre pente rablaisienne et puis notre pente pascalienne, il y a une certaine correspondance. Et la Bourgogne est le lieu béni de cette correspondance. Et comme toutes nos régions, il y a l'Auxerrois ou le Sémurois qui ne ressemble pas au Morvan, qui ne ressemble pas au pays de Chalon, qui ne ressemble pas à la Bourgogne industrielle du côté du Creusot ou de Montceau-les-Mines, qui ne ressemble pas non plus à l'Autunois que je connais un peu mieux. J'aime tous ces terroirs, j'aime cette damasserie si chamarrée, si diverse qui fabrique la France.
Je reviens au dictionnaire amoureux du catholicisme. Est-ce qu'on a christianisation des sociétés? Je pense à la Chine, par exemple, où le catholicisme
Elle n'a jamais été christianisée profondément, la Chine, et par la faute des dominicains qui, dans leur combat avec les jésuites, qui étaient partisans de l'inculturation, c'est-à-dire de tolérer, par exemple, le culte des ancêtres ou le culte de Confucius, ont refusé ça. Et on a loupé la christianisation de la Chine au XVIe siècle. Ceci dit, l'Europe se déchristianise en profondeur depuis Descartes, en tout cas depuis le XVIIIe siècle. Le catholicisme, par exemple, romain, n'est-ce pas, rayonne encore assez largement dans les trois premiers pays catholiques du monde, que sont le Brésil, le Mexique et les Philippines. Deux pays d'Amérique du Sud, un pays de l'Asie du Sud-Est, et puis l'Afrique qui arrive, qui se christianise assez largement dans son versant catholique et protestant. Donc l'Église n'a pas de souci à se faire sous réserve de métamorphose. Elle survivra très bien à ce chambardement historique monstrueux que nous vivons en Europe. Elle a davantage de soucis à se faire et il y a un déclin en profondeur. Et alors, même si on assiste à un renouveau ici ou là dans les nouvelles générations, est-ce qu'il risque d'y avoir un maillon qui manque pour la transmission de ce que j'appellerais le catholicisme culturel? Fait que quand j'étais gosse, moi, tous les enfants étaient à peu près baptisés, on mariait les filles à l'église, même si elles s'étaient tapées tous les gars du canton, et puis c'était pas grave, hein, on venait à l'église, il se passe toujours quelque chose quand on rentre. C'était peut-être c'était le seul moment où certaines familles peu pieuses y entraient, on enterrait les gens à l'église. Ce catholicisme culturel-là est en train de disparaître, en tout cas en France, et c'est triste.
Mais ce déclin du catholicisme culturel de Denis Tillinac, est-ce qu'il contribue à une forme d'effritement
du patrimoine de la France, de son identité également, parce que...
Oui, on peut... Il est évident, je dirais, le catholicisme, avec ce qui est romain, qui a été très important en France, où pour le meilleur et des fois pour le pire, c'est-à-dire une prégnance sur la société telle que ce catholicisme-là est inséparable d'un certain anticléricalisme, qui fait partie d'ailleurs de la culture catholique, hein, je dirais, bien avant les instituteurs francs-maçons de la Troisième République, les franciscains, étaient des anticléricaux très, très véhéments. Oui, on ne peut pas raisonner sur l'identité profonde de la France quand on voit son patrimoine intellectuel, spirituel, politique, sans se dire que le catholicisme est essentiel. Entre l'art byzantin et le baroque inclus, toute l'histoire de l'esthétique occidentale, l'histoire de l'art occidental, c'est une histoire de l'art religieux, de l'art sacré, de l'art et de l'art catholique. Donc nier ça au prétexte de laïcité mal comprise, c'est tout simplement imbécile.
Dans le dictionnaire amoureux du catholicisme, vous consacrez un long chapitre qui a pour titre « Ballade bourguignonne ». Je reviens effectivement à la Bourgogne, oui, que vous avez sillonnée du nord au sud, d'est en ouest.
Oui, je vous ai dit, cette Bourgogne a quelque chose de... qui relève de l'ambiguïté même des tempéraments français, avec son versant gourmand, rablaisien, paillard même, en tout cas épicurien, et puis version spiritualiste. Il y a Cluny et Cîteaux, c'est-à-dire les bénédictins et les cisterciens, c'est leur rayonnement et leur importance, hein, ils ont métamorphosé l'agriculture et invoqué pratiquement la banque moderne, hein, le capitalisme transnational, hein. C'est pas les vilains américains qui ont inventé ça, c'est eux, mais il y a aussi Thésée, hein, donc, qui est une initiative moderne, œcuménique, et qui, c'est pas un hasard, ou s'il l'est, il est très symbolique, que ça se trouve tout près de, dans le Mâconnais, tout près de Cluny. Il y a la sainte du Carmel de Beaune, il y a Elisabeth à Dijon, enfin il y a
Bernadette Soubirous.
Et puis il y a Bernadette Soubirous que je vais voir chaque fois qu'il m'arrive de faire escale à Nevers. Je vais toujours voir Bernadette, j'ai une tendresse pour elle, peut-être parce que là, moi je suis du sud-ouest, on parle l'occitan, et la Vierge s'est adressée à elle en patois bigourdant, je trouve ça... très émouvant, oui, il y a tout ça. Et puis à côté de ça, il y a une floraison de bonnes auberges.
Vous ne parlez pas beaucoup de Vézelay, parce que nous, dans Lyon, on aime beaucoup
Vézelay,
Sainte-Marie-Madeleine.
Et Sainte-Marie-Madeleine, et puis le Vézelay, où quand même Saint-Bernard de Clairvaux a prêché la deuxième croisade en présence du roi de France. Alors je sais bien que les croisades, c'est mal vu d'en parler maintenant, mais enfin, il y a eu, ça appartient à notre patrimoine aussi, il y a eu les croisades, il y a eu le djihad, il y a eu cette rencontre souvent violente, passionnelle, parfois intellectuellement féconde, entre les chrétiens et les musulmans. Et si l'Orient procède d'un fantasme, d'un rêve en Occident, et si l'Europe fait aussi fantasmer les gens du Maghreb ou du Proche-Orient, ben, ça vient de cette rencontre. Alors ça aussi c'est intéressant, et ça passe par la Bourgogne. Et puis le vin de Bourgogne, moi j'aime bien le vin de Bourgogne, je le préfère au vin de Bordeaux. Vous savez, il y a une querelle historique que pourraient incarner mes amis Jean-Paul Kaufmann et Jean-Robert Pitt, l'un plutôt Bordeaux, l'autre plutôt Bourgogne. Bon, vin de Bordeaux, vin de protestant, vin du regret, un peu intello, tourné vers le nord, puisqu'on exportait vers l'Angleterre et la Scandinavie. Vin Bourgogne, vin des rois de France. Hein, par la Seine, remontée, et puis vin du Vatican, vin des rois, vin des papes, hein, vin plus gaillard, plus franc du collier, plus gourmand, plus suggérant plus immédiatement une féminité accessible. Voilà, et ça, moi, et j'avoue une préférence pour les vins de Bourgogne, blancs ou rouges.
Denis Tillinac, à notre micro, une interview réalisée le 7 juillet dernier à Saint-Honoré-les-Bains lors de Bains de Livres à Saint-Eau. Les dictionnaires amoureux du catholicisme et le dictionnaire amoureux de la France, sous la plume de Denis Tillinac sont disponibles aux éditions Plomb. Et puis je voudrais aussi vous rappeler, et ça c'est très important, les dates d'une des plus belles fêtes culturelles de Bourgogne. Notez bien les 28 et 29 septembre prochains, c'est dans un mois, puisque se tiendra en Côte d'Or voisine, au château du Clos de Vougeot, la 6e édition de Livres en Vigne, un salon au cœur du vignoble. Un salon présidé cette année par David Fuenquinos, avec une centaine d'éditeurs et d'auteurs invités, des débats publics dans un joyau de la Renaissance superbe, donc le château du Clos de Vougeot, et l'entrée est gratuite. Pour plus d'informations, vous allez via internet sur le www.livresenvigne.com pour découvrir la liste des auteurs invités. Nous y serons et nous vous proposerons, comme depuis maintenant 2 ans, un compte-rendu de ce beau salon que l'on suit avec fidélité. Première pause musicale dans Wagon Livre avec Tal. On avance. Bonne soirée sur Radio. On se retrouve juste après pour partir à la rencontre de Pascal Arnaud, créateur en 2006 des éditions D'un noir si bleu, installé en Saône-et-Loire. On avance. Petite information autour de la 16e édition du Salon du Livre de Saint-André en Morvan qui se tiendra le dimanche 8 septembre prochain de 10h à 18h. L'entrée est libre. Saint-André en Morvan, c'est dans la Nièvre, petit village à une quinzaine de kilomètres au sud d'Avallon. Renseignements autour de ce salon auprès de Michel Castet au 03 86 22 64 27, 03 86 22 64 27. L'invité d'honneur du Salon du Livre de Saint-André en Morvan sera Guy Carrier. C'est le dimanche 8 septembre prochain, donc dans la Nièvre, Saint-André en Morvan. C'est la rentrée de Wagon Livre ce soir sur Radion. Nous vous proposons un compte-rendu de bain de livres à Saint-Aux qui s'est tenu le 7 juillet dernier dans cette belle et accueillante station thermale de Saint-Honoré-les-Bains. À suivre dans quelques minutes des interviews de Maud Tabachnik, de Sandra Amani, de Gilles Paris et de Philippe Ménager. Mais pour l'instant, rencontre avec le bourguignon Pascal Arnaud, créateur en janvier 2006 des éditions D'un noir si bleu installées à Gibles, petit village de 600 habitants au sud de la Saône-et-Loire, aux confins des monts du Beaujolais et du pays Charolais. Nous avons demandé à Pascal Arnaud comment se portaient les éditions D'un noir si bleu dans un contexte pour le moins difficile.
C'est vrai que le contexte est délicat, mais bon, notre maison d'édition se porte toujours bien parce qu'on a toujours un souci de créer de nouvelles choses et d'avoir de nouvelles propositions. Alors même s'il est difficile de les amener jusqu'au lecteur souvent, grâce à des manifestations comme Bain de Livres à Saint-Aux, au moins on peut être présent, en plus des libraires qui nous suivent.
Alors Pascal Arnaud, ce qu'il faut dire, c'est que les éditions D'un noir si bleu se sont réfugiées à la campagne.
Ah, complètement, oui.
Mais elles attirent un grand nombre d'auteurs. Et puis, vous êtes, alors ça c'est absolument extraordinaire, on en a déjà parlé dans Wagon Livre, vous êtes les inventeurs du livre carte postale. Ça c'est absolument magnifique, un concept extraordinaire.
Oui,
sans vous flatter. Hein,
c'est gentil, c'est un petit jeu que nous avions eu à une époque. On cherchait à savoir comment donner des nouvelles de façon un peu originale. Et on s'est dit dans un premier temps qu'on allait enclore une nouvelle dans une carte postale de façon à ce qu'elle puisse être postale. En proposant ça dans différents salons, beaucoup de lecteurs m'ont demandé si j'en avais pas pour les enfants, parce que la carte postale c'est aussi ce qu'on utilise pendant les vacances pour donner des nouvelles. Et les adultes voulant inciter les enfants à lire, on s'est dit on va relever le gant. Donc on avait fait un appel à texte, on a eu 300 propositions, un peu plus, pour 12 textes à sortir, dont en particulier des gens comme Marie Zimmer ou Gudule ou Héloïse Lièvre ou Calouan, qui n'est pas dans la première série encore, des auteurs qui commencent à être connus dans le monde jeunesse, enfin Gudule surtout. Et du coup, on a poussé le bouchon un peu plus loin, c'est qu'on s'est dit, on va aller chercher aussi des illustrateurs qui sont des enfants de l'illustration, c'est-à-dire que tous les livrets sont illustrés par la classe de première année des DMA de l'école Estienne. Voilà, donc qui ont tous leur contrat d'auteur comme les autres. Et ça donne des illustrations à la fois fraîches et originales, et chacun s'est emparé d'un texte, voilà. Et les 6 premiers titres sont parus pour l'été. Les prochains arriveront l'hiver prochain. Donc on a de Emmanuel Urien avec Diane Chéry, Ce qu'en durent les anges. De Corinne Pourteau avec, j'ai du mal à lire.
Julia Reynaud.
Voilà, Julia Reynaud, Le travail secret de Lola.
Corinne Pourteau, vous la connaissez bien. Hein,
oui.
Je crois.
De Gudule, Une fée en salopette, illustrée par Manon Debaille. Les têtes de Mademoiselle Pauline de Marie Zimmer, qui est illustré par Marie Delafosse, Le Chevalier sans ouvre-boîte de Héloïse Lièvre, illustré par Lison Fernet, et La vie géante de Renata Daruata, illustré par Louise Smith. Voilà, donc c'est vraiment une belle aventure qui commence pour nous et qui a déjà reçu un bon accueil en librairie, puisqu'ils sont en librairie depuis le mois de juin.
Alors, quel est le prix de ce petit livret carte postale?
Alors, ils sont à 3,90€.
Plus un timbre à 60 centimes d'euros.
Oui, c'est ça, c'est le timbre pour 20 grammes, quoi.
Donc cet été, on peut envoyer de la lecture par la poste grâce aux éditions D'un noir si bleu. Et merci,
Pascal
Arnaud, pour ces informations autour des nouveautés de votre maison d'édition.
Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt.
Pascal Arnaud, le créateur des éditions D'un noir si bleu. Si vous désirez en savoir plus sur les éditions D'un noir si bleu, rendez-vous en quelques clics sur le site internet de cette maison d'édition littéraire pour non seulement retrouver tous les livrets carte postale, mais encore pour découvrir le catalogue et les auteurs D'un noir si bleu, www.dunnoircibleu.com. La Bourgogne, on le savait, est une terre de vignobles, de gastronomie, mais aussi d'amour. Et c'est ce que nous rappelle Sandra Amani, qui signe aux éditions de l'Escargot Savant « Amours et passions d'antan en pays bourguignon ». Nous nous sommes laissés séduire par les récits de cet ouvrage, mais aussi par la pétillante Sandra Amani qui fait la part belle aux amoureux dont les passions enflamment une Bourgogne que beaucoup pensaient plus sage.
Je suis une éternelle amoureuse et donc pour moi, parler d'amour, c'est la passion.
Alors parler d'amour, c'est peut-être facile, c'est peut-être quand même beaucoup plus ardu quand il s'agit de se limiter au pays bourguignon. Alors quelles ont été tes recherches, quelles sont tes sources, comment as-tu procédé pour mettre à jour ces histoires d'amour en pays bourguignon ?
Toujours, comme d'habitude, les archives. J'ai recherché les plus belles histoires d'amour, enfin du moins celles qui me semblaient les plus belles ou les plus originales. Et donc je les ai relatées dans cet ouvrage.
Alors des soupirs, des baisers volés, des désirs ardents, des tentations dangereuses. Et dans Lyon, alors dans Lyon, il y a des histoires d'amour, bien sûr, comme dans tous les départements de la Bourgogne. Mais dans Lyon, il y a un personnage. Alors moi, je pensais qu'il n'y avait jamais eu d'histoire d'amour dans sa vie. On le pensait même asexué ou homosexuel ou androgyne. On n'a jamais trop su si c'était une femme ou un homme ou une femme. C'est le personnage le plus célèbre de Tonnerre. C'est le formidable chevalier d'Éon.
Et oui, et ce qu'on ne sait pas, c'est que le chevalier d'Éon a été dépucelé par Yannick, je vous en prie.
Pas par
devinez.
Moi,
mais
un homme, une femme.
Madame de Pompadour.
Allons donc, mais une maîtresse de Louis XV.
La maîtresse la plus célèbre de Louis XV.
Et alors, où as-tu découvert cela ?
J'ai découvert cela dans les archives de Lyon. Dans les archives de Lyon. Où j'ai lu que le chevalier d'Éon, donc, qui est natif de Tonnerre, oui, de Tonnerre, était donc parti en mission. Bon, ça, on le sait bien. Hein.
Mission secrète,
en mission
en Russie,
oui,
en Grande-Bretagne.
Ça, ce n'est un secret pour personne. Oui. Par contre, qu'il ait par hasard rencontré Madame de Pompadour dans le salon de Louis XV, Louis XV qui, voyant cette adorable blonde, voulait en faire son dessert, eh bien, malheureusement, l'adorable blonde était déjà dépucelée par la maîtresse. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très, très cocasse et vraiment, il fallait que ça figure dans mon recueil.
Donc, le recueil, je rappelle le titre, aux éditions de l'Escargot Savant, Amours et passions d'antan en pays bourguignon. Et puis, autre personnage iconé d'origine, il est né à Sens, c'est le grand poète Stéphane Mallarmé.
Beaucoup plus sage. On doit l'avouer, beaucoup plus sage, puisque lui s'est marié avec son adorable mari et a eu une vie, on va dire, a eu une véritable histoire d'amour, une histoire d'amour avec des sentiments, une histoire d'amour avec des voyages. Bon, on peut dire une histoire d'amour mouvementée par ailleurs, mais une histoire d'amour, pas une véritable passion.
Combien de temps t'a demandé la préparation de ce recueil d'histoires d'amour et de passion d'antan en pays bourguignon ?
Environ un an et demi.
Et là, tu es déjà sur un prochain
je
thème ?
Je suis sur deux prochains thèmes, puisque je termine pour octobre le tome 2 des Mystères du Nivernais. Et ensuite, pour 2014, aux éditions du Belvédère, cette fois-ci, je vais sortir un ouvrage qui s'intitule « Lieux insolites et mystérieux de Bourgogne ».
Merci Sandra. Donc du Moyen-Âge au XXe siècle, Sandra Amani qui fait la part belle aux amoureux dont les passions enflamment une Bourgogne que beaucoup pensaient plus sage.
Exact. Donc XXe siècle, Émile Zola et Jeanne Rosereau, originaires de Meilly-sur-Ouvre, juste à côté de Vannes, le village où je demeure.
Amours et passions d'antan en pays bourguignon, c'est aux éditions de l'Escargot Savant et c'est signé de Sandra Amani. Bisous Sandra.
Mouh.
Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever.
Let the music play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song.
Toujours à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion. Avant de poursuivre notre compte-rendu de Bain de Livres à Saint-Eau, avec notamment un entretien avec Maud Tabachnik, je voudrais mentionner, disponible en kiosque et en librairie, le dernier numéro de Pays de Bourgogne, daté de juillet dernier, avec un remarquable dossier consacré à 30 lieux de mémoire inédits à visiter, et notamment des lieux consacrés au sarcophage et au sein en Bourgogne. Alors, par exemple, il y est question du tombeau de Saint-Andoche à Saulieu, de la tête de Saint-Co à Saint-Brille-Vineux, Sainte-Camille à Écolive, Saint-Germain-d'Auxerre et ses miracles, ou encore le mystère des 49 sarcophages autour de l'église de Carré-les-Tombes. C'est dans le numéro 237 de Pays de Bourgogne qui fête en cette année 2013 son 60e anniversaire. Elle était présente à Bain de Livres à Saint-Eau le 7 juillet dernier. C'est Maud Tabachnik, venue dédicacer ses thrillers politiques et romans noirs, mais son dernier ouvrage, un livre de suspense paru à l'Archipel et intitulé « Je pars demain pour une destination inconnue » dont l'action principale nous ramène au périple infernal de l'Exodus, célèbre navire à bord duquel plus de 4500 rescapés des camps de la mort se sont embarqués en mai 1947 pour rejoindre la Palestine. Maud Tabachnik a publié son premier roman en 1990, un roman intitulé « La vie à fleur de terre » après avoir abandonné son métier d'ostéopathe. Maud Tabachnik au micro de Wagon Livre.
Oui, j'avais mon cabinet à Paris, sur les grands boulevards à Paris. Je me suis arrêtée au bout de 20 et quelques années. J'ai acheté une propriété en Touraine et j'ai commencé d'écrire et par chance ça a fonctionné.
Alors, parmi les derniers titres parus, Ciel de cendre, Ne vous retournez pas, Désert barbare, il y a un recueil de nouvelles également, Dans l'ombre
oui,
du monde.
Dans l'ombre du monde pour les post-ados.
Et puis, le tout dernier, alors qui n'est pas véritablement, enfin qui n'est pas un polar.
Non, c'est pas un polar.
C'est un livre qui s'inscrit aux éditions de l'Archipel dans la collection Cœur noir, qui est un livre de suspense.
Oui.
et vous nous ramenez à l'épopée de ce célèbre
Exodus,
navire Exodus en 1947. Qu'est-ce qui vous a pris de vous replonger dans l'histoire des Juifs d'Europe?
Oui, il m'a rien pris. C'est Belfond, Jean-Daniel Belfond de l'Archipel, qui a voulu monter une collection dont il a confié l'écriture à quelques auteurs différents sur des faits historiques contemporains traités à la manière d'un thriller. Et il m'a demandé de narrer l'Exodus, l'épopée de l'Exodus. D'autres ont fait les Jeux Olympiques de 1936, d'autres auteurs ont fait d'autres choses, les faits contemporains du XXe siècle. Donc c'est pour ça que je me suis attaquée avec... c'était difficile parce que le problème de ces livres-là, que ce soit pour les uns ou pour les autres, on connaît la fin, alors que le suspense veut qu'on ne connaisse pas la fin. Donc il a fallu le traiter d'une manière différente. Au point de vue historique, mon livre est tout à fait bordé. J'ai eu de la bonne documentation. J'y ai introduit très peu de personnages qui n'existaient pas. C'est-à-dire que les personnages que l'on retrouve tout au long de l'histoire sont des gens qui ont existé, et dont un ou deux existent encore.
Notamment le capitaine de l'Exodus qui est encore en vie.
Non, le capitaine est mort il y a 2-3 ans, mais est resté un des matelots, si l'on peut dire, qui est en ce moment journaliste à Tel Aviv, journaliste sportif à Tel Aviv, alors qu'il a 85 ou 86 ans. Noah Kliger, il s'appelle. Et on le retrouve dès le début du bouquin.
Ce qui est incroyable, c'est que initialement, l'Exodus, c'est un vieux rafio qui est acheté 60 000 dollars par la Haganah, c'est-à-dire l'armée secrète
clandestine juive.
Et c'est aussi le rappel que finalement, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les Français sont un peu gênés. Ils n'ont rien contre le fait que les Juifs aillent en Palestine, mais la Palestine est sous mandat britannique. Les Britanniques, eux, ne veulent pas que les Juifs aillent s'installer en Palestine parce que
il y a aussi les intérêts arabes.
Finalement, c'était un véritable casse-tête. Que faire de ces Juifs qui étaient passés par les camps, qui avaient été libérés par les armées américaines et qui voulaient...
Et qui n'avaient plus de
qui
foyer.
Qui n'avaient aucune terre,
plus de famille, plus de foyer, plus de pays, et qui avaient envie de revenir dans leur foyer originel. Mais la politique étant ce qu'elle est, toujours la même, elle ne fait pas battre le cœur, elle fait battre plutôt les portefeuilles.
Alors, votre roman, il faut peut-être qu'on en donne le titre, hein, c'est « Je pars demain pour une destination inconnue ». Et c'est aussi le rappel d'une France qui est partagée, je vous cite, Maud Tabachnik, entre ceux qui avaient trempé dans le schnapps et ceux qui étaient restés fidèles au Beaujolais.
Oui.
Voilà une...
C'est un peu ça. La phrase éponyme de c'est une lettre que l'on a retrouvée de mon arrière-grand-mère, que nous avons retrouvée récemment, envoyée du camp de Drancy, où elle a été internée, avant d'être expédiée à Auschwitz. Et c'est sa dernière lettre, que je mets dans le livre, où elle dit « Bon, mes enfants, je pars demain pour une destination inconnue, mais gardez votre espoir, nous allons surmonter ces épreuves et on se retrouvera ». Bien sûr, cette arrière-grand-mère avait 72 ans, elle était grippée, elle était mal fichue, elle est morte dans les wagons plombés qui l'ont amenée au camp. Donc j'ai voulu prendre, je partirai demain pour une destination inconnue, parce que la pauvre, on ne savait pas du tout où elle partait. Et puis ceux qui, en 47, ont voulu revenir, ce qui était encore la Palestine nominativement, qui n'était pas la patrie du peuple palestinien, c'était le nom biblique de la terre, qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient retrouver. D'abord, ils ont retrouvé tout de suite un pays en guerre, et avec les suites que l'on connaît.
Alors, il faut attendre le 29 novembre 1947 pour qu'il y ait une résolution, la résolution dite 181, qui allait partager la Palestine et enfin
entre juifs et arabes,
attribuer une terre effectivement aux juifs d'une part et d'autre part aux arabes. 14 mai 58, c'est la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Mais juste avant, il y a eu quand même ce scandale de ce bateau Exodus qui a été donc, on peut dire, intercepté par l'armée britannique.
Plus qu'intercepté, canonné, prise d'assaut, très violente. Les Britanniques se sont traités extrêmement violents. ont obligé les bateaux arrivant à Haïfa à revenir en France dans une chaleur, vous voyez, celle d'aujourd'hui, c'est rien du tout à côté de ce qu'était l'année 47. Les faire...
Dans des cages.
Et
on a même parlé d'Auschwitz vivant.
Voilà, les journalistes de l'époque disaient on recommence les camps.
D'où le scandale quand même aux yeux de l'opinion internationale.
Voilà, l'opinion internationale a beaucoup aidé à ce moment-là. Et ils sont venus en France, ils n'ont pas voulu débarquer en France. Les autorités françaises se sont bien comportées. Il n'y a rien à dire sur les autorités françaises de l'époque. Elles ont été tout à fait compatissantes. Bon, il y a toujours le vieil antagoniste anglo-français qui aide aussi des prises de position différentes. Ils ont été renvoyés dans des camps allemands, à Hambourg, gardés par des soldats de la Wehrmacht. Alors là, ça a été la goutte d'eau, quand même, c'était un peu beaucoup, des prisonniers de l'armée allemande. Et enfin, au bout de va-et-vient épouvantable, de 4500 personnes dans un rafio sans confort de 500 personnes, sans pratiquement d'eau, sans vivre, avec une chaleur à crever, avec des malades, avec des enfants, avec des vieillards, ils ont réussi, les derniers ont réussi à aborder en septembre-octobre 1947 à Haïfa, le port de Palestine. Et il y a eu donc la résolution
181
qui a été extrêmement difficile à obtenir parce que tous les pays arabes et une grande partie déjà des pays d'Amérique latine qui avaient recueilli pas mal de nazis étaient contre. La France s'est abstenue un moment puis elle a voté la résolution. Donc le pays a été déclaré officiellement viable et créé le 14 mai 1948 et le 15 mai 1948, cinq armées arabes ont envahi le pays. Et depuis, voilà, on en est là.
Dans Je pars demain pour une destination inconnue, Maud Tabachnik, il y a un espion britannique qui s'appelle John Milton.
Alors c'est le seul personnage inventé qui représente en fin de compte le britannique. Vous voyez, Agathe du MI5, un espion qui va faire tout ce qu'il faut pour ne pas laisser partir ce bateau de Port-de-Bouc. Et c'est le seul. Mais il représente à lui tout seul, si vous voulez, un peu la politique anglaise. Enfin, il n'y a pas que ça, parce que je parle du cabinet anglais de l'époque, de Bevin, de d'Attlee. C'est aussi un livre qui parle de la politique française de l'époque.
Il y a
tous les gens en place de l'époque.
Donc on rappellera le titre, Je pars demain pour une destination inconnue, puis bien sûr, il y a tous les autres polars,
oui,
pur jus,
mais il y a beaucoup d'historique aussi, hein, dans mes La mémoire du bourreau qui ressort pour la énième fois en poche, je me suis appuyé sur Aloïs Brunner, le bourreau nazi qui a été caché en Syrie, qui raconte sa vie à son fils, j'ai des livres qui se passe en 1306 en France, qui est aussi un polar historique très violent. Les hommes ont toujours été violents, donc comment voulez-vous que j'écrive des autres choses comme... Et il y a aussi le sang de Venise. Et j'essaie de braquer un projecteur sur notre monde.
Désert barbare. Aux États-Unis, hein, on est dans les années 2000, puisque
voilà,
Obama
là, maintenant,
est président.
Oui, là, c'est maintenant. Alors c'est le vol et la vente des enfants haïtiens, ce sont les sexes qui sont dans les déserts, vraiment... un peu style Charles Manson, enfin... Moi, c'est le monde que je regarde.
Est-ce que le polar peut tout se permettre?
Tout.
Absolument tout?
Tout. Bien sûr, tout. Les livres peuvent tout se permettre. Ils ont fait quelquefois plus de mal que des balles. Hein. Mein Kampf, un petit livre rouge, a fait plus de victimes quelquefois que des canons. Hein.
Oui, mais ce sont des textes idéologiques, politiques, alors que le polar reste quand même une œuvre de fiction.
Oui, mais qui s'appuie sur les idées de chacun. Moi, j'ai des confrères français qui sont dans le social, qui sont... Vous voyez ce que je veux dire ? On a chacun notre angle de vue sur cette littérature noire, qui est une chronique de notre époque. Hein. C'est pas autre chose qu'une chronique de notre époque.
Maud Tabachnik à notre micro pour Je pars demain pour une destination inconnue aux éditions de l'Archipel. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite du compte-rendu de Bain de Livre à Saint-Eau. D'abord, un peu de chanson avec un titre de Jean-Jacques Goldman, Elle attend, c'était en 1996. Excellente soirée, vous écoutez Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Thank you.
attend que le monde change. Elle attend que changent les temps. Elle attend que ce monde étrange se perde et que tourne les bras. Inexorablement, elle attend. Elle attend que l'horizon bouge. Elle attend que changent les gens. Elle attend comme un coup de foudre le règne des anges innocents. Inexorablement, elle attend. Dans ses couverts en argent, inexorablement, elle attend. Et elle regarde des images et lit des histoires d'avant. Donnerait de grands équipages où les bons sont habillés de blanc. Et elle s'invente des voyages entre un fauteuil et que ces vieux romans, aussi grand que celui qu'elle attend. Elle attend que le monde change. Elle attend que changent les temps. Elle attend que ce monde étrange se perde et que tournent les vents. Inexorablement, elle attend.
Si vous avez manqué le début de notre rendez-vous, retrouvez d'ici quelques jours cette émission dans son intégralité en podcast sur le site internet de Radion, rubrique émission, puis wagon livre, et vous cliquez sur l'onglet podcast. Nous retournons par la magie des reportages dans la Nièvre, à Saint-Honoré-les-Bains, où s'est tenu le 7 juillet dernier le salon Bains de Livres à Saint-Eau. Une belle rencontre pour vous, une belle rencontre aussi pour nous, avec Gilles Paris autour de son roman Autobiographie d'une courgette, initialement paru chez Plon, et depuis peu disponible en format de poche dans la collection Étonnantissime chez Flammarion. Ce roman raconte l'enfance d'un garçonnet de 9 ans, surnommé Courgette, qui tue accidentellement sa mère et se retrouve en maison d'accueil. Le regard optimiste du jeune héros triomphe de la vie malheureuse qui aurait pu être la sienne. Gilles Paris, à notre micro.
Et il a en effet une vie malheureuse parce qu'il vit très isolé à la campagne. Une mère assez alcoolique qui s'intéresse plus à la télévision qu'à lui.
Et à Céline Dion.
Et entre autres à Céline Dion et surtout aux séries télévisées. Mais il faut savoir que toute l'histoire est racontée par lui. C'est très important parce que c'est par sa voix qu'on apprend tout. Et cette voix-là, justement, dédramatise le pire. Et pourtant, le pire va arriver au début du roman, d'une certaine manière, puisqu'il va tuer sa maman par accident. Ce qui va le placer dans une maison d'accueil. Et paradoxalement, c'est dans cette maison d'accueil qu'il va trouver à la fois l'amour qui lui a manqué enfant, auprès des autres enfants, auprès des éducateurs, auprès des gens qui l'entourent et qui lui apportent cette chaleur qui lui manquait. Et l'espoir qui semblait presque impossible au départ, je dirais c'est presque sa chance, au fond, ce qui lui arrive d'arriver dans une maison d'accueil.
C'est un petit peu finalement le principe du qui perd gagne pour lui.
C'est ça, c'est une sorte de conte de fées conçu à l'envers pour lui, avec une, sans dévoiler la fin, une fin particulièrement heureuse. Et c'était important pour moi, c'est une nouvelle que j'ai écrite en fait quand j'avais 12 ans, cette histoire. Et quand j'ai décidé d'en faire un roman, je me suis dit je ne peux pas parler des maisons d'accueil comme ça sans rien en savoir. Donc j'ai enquêté pendant 2 ans. auprès d'un lieu qui dépend de la fondation Cognac-Jay et dont je me suis profondément inspiré pour le lieu. J'ai passé beaucoup de temps avec les éducateurs également qui m'ont appris énormément de choses, et la plupart des éducateurs qui sont dans ce roman sont les éducateurs de la maison d'accueil dans laquelle j'ai enquêté. Par contre, j'ai passé beaucoup de temps avec les enfants de cette maison d'accueil. J'ai été avec eux à l'école, j'ai été avec eux, j'étais à l'arrière au fond de la classe, hein, le grand dadais, mais qui retenait les choses et qui notait des choses que pas forcément les enfants, eux, notaient. J'allais à la piscine avec eux, j'allais dans les cars avec eux. Mais par contre, toutes les histoires que j'apprenais, je les ai gardées pour moi. Celles du roman sont totalement inventées.
D'accord. Alors, bien sûr, notre petite courgette se retrouve donc dans ce foyer qui accueille à peu près une quarantaine d'enfants. Alors, il y a Ahmed, dont le papa est en prison. Il y a Béatrice qui mange ses crottes de nez. Enfin, il y a les frères Chafouin. Il y a des tas d'autres enfants qui ont tous des raisons vraiment tristes de se retrouver en foyer, qui grandissent, qui observent le monde des adultes. Et ce qui est vraiment très drôle dans votre roman, Gilles Paris, c'est l'attachement que vous avez au langage, parce que finalement vous racontez la réalité à travers et avec les moyens linguistiques qui sont ceux d'un enfant de 9-10 ans.
Absolument, c'est une langue que je travaille en fait depuis maintenant, ça paraît étrange, 40 ans, parce que j'ai 54 ans. J'ai commencé à écrire des nouvelles à l'âge de 12 ans, et dans ces nouvelles déjà j'écrivais à la place d'un enfant de 9 ans. Alors c'est vrai que c'est tout sauf un procédé, c'est-à-dire que pour moi j'entre réellement à l'intérieur de la peau d'un enfant de 9 ans. J'entre dans sa langue, dans ses mots que j'ai... Alors j'ai étudié énormément et j'ai beaucoup travaillé avec les enfants au départ, je continue à le faire mais plus autant qu'au départ parce que cette langue, j'arrive à l'ingérer, et pourtant de génération en génération elle change. Un enfant de 9 ans aujourd'hui, en 2013, n'est pas la même qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Les jeux ont changé, la vie a changé, les enfants ne parlent plus de la même manière. Ils assimilent notamment les mots de leurs parents. Et tout ça est très, très intéressant à regarder, à étudier et ensuite à retranscrire à travers mes romans. Parce qu'un enfant de 9 ans, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que la plupart des enfants de 9 ans ne jugent pas. Ils essayent de comprendre. Contrairement à nous, quand on grandit, finalement, on a des avis un peu tranchés sur tout, souvent en tout cas. Et on essaye moins de comprendre les gens qui vous entourent. Et c'est dommage, parce que c'est ce qui sauve un enfant, justement, c'est d'essayer de comprendre. C'est cette curiosité insatiable, c'est ces questions sans fin. Et puis à 9 ans, on peut parler comme un bébé, on peut parler comme un adulte, on peut tout d'un coup sortir une phrase incroyablement adulte. C'est une langue riche et surtout qui va vraiment de pair avec la poésie, parce que j'adore la poésie, et à travers le langage de l'enfant je peux développer aussi ce que j'aime profondément en littérature, c'est-à-dire la poésie, c'est-à-dire tout ce qui est de l'art, du rêve, de l'onirique, etc., parce que ça, la langue d'un enfant de 9 ans s'y prête énormément.
Il y a un clin d'œil aussi à Prévert dans votre autobiographie d'une courgette, et il y a des... Prévert a aussi beaucoup célébré l'enfance.
Alors c'est gentil ce que
et
vous...
Les enfants s'ennuient le dimanche.
C'est gentil ce que vous me dites, mais je ne sais pas comment... On m'a souvent demandé d'ailleurs quels étaient les livres que je lisais et ce qui m'a inspiré. La vérité, c'est que ce ne sont pas les livres que j'ai lus qui m'ont inspiré, mais la vie qui m'entoure.
Mais j'ai pensé vraiment... aussi à Queneau, ouais. J'ai pensé à Zazie dans le métro, par exemple. Des côtés Zazie dans le métro.
C'est gentil de me dire ça. C'est gentil, mais moi, c'est la vie qui m'entoure qui m'a inspiré. C'est les enfants que j'ai rencontrés, c'est les situations que j'ai pu vivre dans ma propre vie, qui m'ont donné envie, si vous voulez, d'entrer dans la peau de ces enfants. Et surtout, c'est le plus important presque, cette langue, elle dédramatise les thèmes qui sont les miens. Ce sont à la fois des livres graves et légers. J'essaye à la fois dans mes thèmes, bien sûr qu'il y a des moments difficiles, il y a des moments où on a la gorge serrée, etc. Mais on rit beaucoup dans mes romans. Et pour moi, c'est important d'amener l'espoir aux gens. Je crois que c'est surtout ce que j'essaie de développer à travers mes livres et à travers mes histoires.
Alors, ce qui est aussi très, très cocasse et qui nous fait beaucoup sourire, c'est tout ce qui touche la sexualité. Il y a un moment, c'est une petite fille, je crois, qui a vu un film cochon. Elle raconte ce qu'elle a vu dans le film cochon. Alors, il se pose des questions. Ça veut dire quoi, bander, par exemple? Et puis, il y a ce regard, j'insiste là-dessus, Gilles, ce regard des enfants sur le monde des adultes. Par exemple, Courgette dit, les adultes, des fois, ça dit des trucs stupides à cause de la peur qui leur dévore le cœur.
Parce que je pense qu'un enfant de 9 ans, qui ne juge pas et qui essaye de comprendre et qui est sans arrêt dans cette forme de curiosité, a aussi un don d'observation. Et il arrive à comprendre des choses simples que les adultes eux-mêmes ont oubliées. On est dans une, dès qu'on devient adulte, si vous voulez, dans une forme de spirale de vie, de travail, de voilà. Et l'enfant, lui, il a le temps d'observer, il a le temps de regarder, il a le temps d'ingérer. Et des fois, il peut sortir en effet des phrases comme ça et qui sonnent juste parce qu'elles sont tout à fait réelles. Quant à la sexualité des enfants, c'est quelque chose qu'on peut aborder avec les enfants à partir du moment, souvent, où ils ont des frères ou des sœurs adolescents, si vous voulez, qui commencent à parler de la sexualité, parce qu'à 9 ans, c'est quelque chose qu'on a du mal à vraiment saisir ou à comprendre. Je parle des enfants normaux, c'est-à-dire que, évidemment, dans des milieux plus difficiles ou dans des banlieues plus difficiles, évidemment, à 9 ans, la sexualité, on sait ce que c'est, on en a entendu parler. Mais voilà, sinon, dans l'ensemble, si vous voulez, la sexualité, quelque chose que les enfants ne comprennent pas encore très bien. Et pourtant, à 9 ans, normalement, on sait comment vient un bébé.
Gilles, vous écrivez dans l'autobiographie d'une courgette, « Des fois, les grandes personnes faudrait les secouer pour faire tomber l'enfant qui dort à l'intérieur. » Est-ce que vous écrivez pour faire tomber l'enfant qui sommeille encore en vous ?
Pas qui sommeille en moi, mais qui sommeille en mes lecteurs. C'est-à-dire que j'ai l'impression, si vous voulez, je reçois beaucoup de courriers, des lettres, des mails, des mots de lecteurs. Et ce que moi, j'ai pas de message particulier à faire passer à travers mes romans, mais il y a rien de plus qui me fait plaisir quand j'arrive à faire remonter l'enfant qui est en chaque lecteur qui lit mon livre. Parce que c'est ça qui est important. Faut pas oublier qu'on a en chacun de nous un enfant qui sommeille. Faut jamais l'oublier, cette soif de curiosité, de naïveté dans le bon sens du terme, de regard sur l'autre, d'humanité en fait en quelque sorte. Et c'est ça que j'ai envie d'apporter aux gens à travers mes romans.
C'était Gilles Paris, l'auteur de Autobiographie d'une courgette en poche chez Flammarion avec des illustrations de Charles Berberian. On rappellera toujours sous la plume de Gilles Paris Le pays des kangourous aux éditions Don Quichotte. La suite de Wagon Livre juste après Mardon Roudette et New Age. Bonne soirée sur Radio.
Love is a word I don't understand. The simplest sound of 4 letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day. Every day, yeah, try to show.
Merci de nous être fidèles ce soir sur votre radio locale pour le rendez-vous littéraire que nous nous efforçons de vous offrir ce soir. 125e numéro de Wagon Livre consacré au compte-rendu de Bain de Livres à Saint-Eau qui a rassemblé auteurs et éditeurs le 7 juillet dernier au sud de la Nièvre dans la cité thermale de Saint-Honoré-les-Bains en pays éduin. Nous l'avions reçu dans notre émission en mai 2012 pour un ouvrage intitulé « Sites et monuments remarquables de Côte d'Or ». Je veux parler de Philippe Ménager, historien, qui récidive, pour notre plus grand bonheur, avec « Sites et monuments remarquables de la Nièvre » aux éditions de l'Escargot Savant.
Entendons-nous bien, nous sommes sur des ouvrages qui sont en réalité des invitations à s'émerveiller. Pour reprendre un mot latin, nous sommes avec des vademecum, hein, livres avec lesquels on va pour s'émerveiller, pour découvrir des sites naturels ou des sites et des monuments historiques. Oui, c'est toujours plaisant, évidemment, à faire. Puis la Nièvre, ce département si méconnu, ce département tant raillé, soi-disant, il n'y a rien. Vous allez vous perdre dans la Nièvre, m'a-t-on dit. Que nenni ! Il y a plein de choses. Et la variété de monuments est à l'égal de la variété des paysages de ce département. Rien de plus différent entre Cosne-sur-Loire et Château-Chinon qui, dans l'alphabet, sont l'une à côté de l'autre. Et pourtant, d'un côté, vous êtes dans le Val-de-Loire et de l'autre, vous êtes dans le Morvan granitique. Rien à voir entre le Bec d'Allier, si tout à fait remarquable pour la nature, et puis la région de Clamecy. Le Val de Lyonne et le Val de Loire, ce ne sont pas la même chose.
Alors, un petit mot de Saint-Honoré-les-Bains.
Ah, Saint-Honoré-les-Bains, ville thermale par excellence.
Découverte par les Romains dans l'Antiquité.
Oui, et redécouverte fortuitement par les fouilles, tout moins fouilles, pas archéologiques, par les fouilles qui ont été faites au début du 19e siècle pour réaménager le site des sources. Et à ce moment-là, on a découvert plein de monnaies, un certain nombre d'objets votifs qui sont allés enrichir des collections départementales ou particulière, et puis voilà, ce développement qui va se faire au cours du 19e siècle jusqu'à donner un ensemble de très belles factures néoclassiques et art nouveau au tournant des 19e et 20e siècles, avec un pavillon d'accueil tout à fait remarquable pour son allure néoclassique en architecture et pour ses remarquables décors art nouveau en mosaïque. C'est vraiment un plaisir de l'œil.
Les villes de la Nièvre sont bien évidemment nombreuses, avec une richesse patrimoniale que tu mets en valeur donc dans cet ouvrage dont je rappelle le titre, hein, « Sites et monuments remarquables de la Nièvre », c'est aux éditions de l'Escargot Savant. Un petit mot sur Clamecy, par exemple, la ville, j'allais dire presque le cœur de l'industrie du flottage du bois.
Ah oui, oui, Clamecy, territorialement, administrativement, dans la Nièvre, mais par Lyon, tournée forcément vers le département homonyme. Ville tout à fait charmante, tout à fait singulière, où à la fois on a évidemment tous ces aménagements liés au flottage du bois. Hein, les pertuis, le canal du Nivernais qui contrecarrera le flottage et le fera disparaître, mais également patrimoine religieux tout à fait remarquable avec une collégiale qui est de toute splendeur.
L'église de Bethléem.
Et j'allais y venir, l'église de Bethléem qui est quelque chose d'une singularité sans commune mesure. Qu'est-ce que Bethléem d'ailleurs vient faire au fin fond de la Nièvre ? Bien, c'est un évêque in partibus, encore du latin décidément. Donc, c'est-à-dire que l'évêque de Bethléem, le jour où les Mahométans ont repris la Terre Sainte, eh bien, s'est trouvé sans évêché. Il avait été prévu qu'il ait un évêché dans la Nièvre et à Clamecy. L'église originelle aujourd'hui est transformée en restaurant. De la table du Seigneur, on est passé à la table des seigneurs de la fourchette et du couteau.
Un autre hôtel.
Oui, et... C'est un autre hôtel, pas belle homonymie. Et la nouvelle église de Bethléem est un ouvrage en béton armé qui est assez singulier parce que au moment où il est construit, cet édifice, des ouvrages en béton armé, on n'en a trouvé que dans la région parisienne. Et c'est l'une des premières fois qu'on trouve ce type d'église en béton armé dans la province. Et c'est d'un grand intérêt patrimonial, évidemment.
Alors Philippe, un petit coup de cœur dans la Nièvre, un petit joyau patrimonial, historique.
L'église de Verneuil. Vraiment, c'est un lieu que j'ai pris énormément de plaisir à découvrir. Très belle église romane, qui a surtout un grand intérêt, c'est l'ensemble de ses peintures murales. Vraiment, on a des cycles de périodes différentes, mais qui sont d'une très belle facture. Et puis, que l'on trouve partout, pas seulement sur les murs de la nef, on les trouve sur les intrados des voûtes, on les trouve dans les cul-de-four des chapelles et de l'abside. Vraiment, on les trouve partout et s'en fait une collection remarquable de peintures murales. C'est charmant.
Philippe Ménager, historien et chroniqueur régulier au magazine En Bourgogne, à notre micro pour Sites et monuments remarquables de la Nièvre, disponible en librairie aux éditions de l'Escargot Savant. Un bel ouvrage richement illustré pour se cultiver et s'émerveiller. Je tiens en cette fin d'émission à remercier Evelyne Philippe, l'organisatrice de Bains de Livres à Saint-Eau. Et je vous rappelle les 28 et 29 septembre prochains, la 6e édition de Livres en Vigne, première fête du livre au cœur du vignoble, très précisément au château du Clos de Vougeot. Salon Livres en Vigne cette année qui sera présidé par l'auteur de La Délicatesse, David Fuenquinos. De très nombreux auteurs sont attendus, Ève de Castro, Delphine Berthelon, Michel Barrière, Nathalie Garance, Jacques Pradel, Didier Cornaille, Pierre Péju, le comédien Francis Perrin, Jean-Robert Pide, Pierre Ducrozet, Jean-Pierre Soisson, Philippe Lorrain, etc., etc. L'entrée est gratuite, c'est les 28 et 29 septembre prochains, c'est dans un mois. Et pour toute information complémentaire, vous pouvez noter via internet www.livresenvigne.com. Côté kiosque et maison de la presse, je rappelle aux amoureux du patrimoine bourguignon le dernier numéro de Pays de Bourgogne, daté de juillet dernier, avec un captivant dossier sur les sarcophages et les saints en Bourgogne. Il y a également un article sur le tastevin, cet objet que le vigneron utilise pour goûter son vin, et un autre sur le jansénisme dans l'Yonne à Lalande, dans le canton de Toucy. La semaine prochaine, vous retrouverez le coup de cœur de notre libraire partenaire Evelyne Levallois de L'Autre Monde, librairie d'Avallon, et bien sûr, un invité à bord de Wagon Livre. En effet, nous accueillerons devant notre micro Irène Chauvy pour La Vengeance volée, un polar historique sorti aux éditions 10-18 dans la collection Grand Détective, un roman récompensé en 2011 par le Grand Prix Ça m'intéresse Histoire, et l'action de ce polar se situe sous le Second Empire. Le capitaine Allonfleur est chargé par Napoléon III de découvrir qui a assassiné deux domestiques dans l'entourage de l'impératrice. Une émission placée donc mercredi prochain sous le signe du polar et de l'histoire. C'est donc mercredi 4 septembre à 21h, toujours sur Radion 90.5 dans l'Yonne et partout ailleurs en Bourgogne et en France sur le www.radion.fr. Bonne fin de soirée en compagnie du programme musical de votre radio locale. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Au revoir.